prenez le temps d'en tenir compte et de vous bouger.
Pauvre
allez, bye bye.
Prévois quelle tristesse. L'air de rien, t'es toujours mal et tu nous blesses. Qui rira de ça, je sais pas, range ton ivresse. Tu sèmes la peur au dessin.
Bonjour à tous et merci d'écouter RFI. Il est 11h en temps universel, midi, ici à Paris.
RFI midi, Anne Contner.
Et merci d'être avec nous. Tour de l'actualité dans le monde avec nos correspondants, avec nos envoyés spéciaux. Et à la une ce mardi 27 janvier, la gestion de la crise à Minneapolis. Après la mort samedi d'un deuxième Américain tué par la police de l'immigration, après l'indignation jusque dans le camp républicain, Donald Trump tente d'apaiser. Ça n'est pas vraiment un revirement, pas tout à fait un recul non plus, mais le président américain a décidé de remplacer le chef des opérations de ICE dans cette ville. Et on essaiera de comprendre ce que ça peut changer avec notre invité dans un peu plus d'une heure. Avant cela, on reviendra sur cette nouvelle plainte déposée par la famille d'Alassane Diarra, un homme de 35 ans mort en garde à vue à Paris il y a 10 jours. Des images montrant des policiers le frappant violemment alors qu'il était au sol avaient beaucoup choqué et aujourd'hui sa famille craint que l'affaire soit étouffée.
RFI midi.
Au sommaire également, la libération de deux syndicalistes au Gabon. Deux personnalités qui avaient beaucoup mobilisé au début de la grève des enseignants le mois dernier. On y revient dans Afrique Midi, midi et demi, temps universel. Et puis la Confédération africaine de foot pourrait prononcer aujourd'hui des sanctions contre l'équipe du Sénégal. On parle là évidemment de la finale chaotique de la CAN, du coup de sang des Lions de la Teranga qui avaient quitté le terrain dans un climat ultra tendu. Le journal des sports, c'est dans 1h15 à midi et quart, temps universel. Bienvenue. Et on commence donc avec votre journal, Gilles Moreau. Bonjour.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
La colère donc ne retombe pas dans le Minnesota.
Oui, de nouveaux rassemblements ont éclaté hier soir, toujours pour s'opposer à la présence à Minneapolis de la police de l'immigration. La tension monte depuis la mort samedi d'Alex Preti, tué comme René Goode avant lui par des agents fédéraux. Les autorités locales, autorités démocrates, demandent le départ des agents de l'immigration. Au niveau fédéral, cette fois, on tente de jouer l'apaisement. Grégory Lesca, bonjour.
Bonjour Gilles.
L'administration Trump vient d'envoyer plusieurs signaux montrant un changement de stratégie, à commencer, Grégory, par cette réunion de 2 heures hier soir à la Maison-Blanche.
Et oui, et dans le bureau ovale, le président Trump, sa secrétaire à la sécurité intérieure, son principal conseiller et un objectif, reprendre la main. Alors que depuis 2 jours, la version officielle sur la mort d'Alex Preti est totalement discréditée par les vidéos de la scène. Premier geste donc, le très contesté Greg Bovino est rappelé par Washington. L'administration dément toutefois que le chef de la police des frontières ait été relevé de ses fonctions, comme l'affirme le magazine The Atlantic. Il est remplacé par Tom Homan, proche de Trump, pour diriger les opérations anti-migrants à Minneapolis. Autre signe d'apaisement, ces coups de fil de Donald Trump au gouverneur du Minnesota et au maire de Minneapolis, tous deux démocrates. Tim Walz et Jacob Frey ont chacun annoncé le départ de certains agents de ICE dès ce mardi. Information toutefois non confirmée par la police fédérale.
Reste que la pression, Grégory Lesca, dans le camp républicain est de plus en plus forte.
Oui, avec deux exemples ces dernières heures, l'avocat Chris Madel, connu pour défendre notamment des agents des forces de l'ordre, a publié une vidéo pour annoncer qu'il renonçait à briguer l'investiture républicaine pour l'élection du gouverneur du Minnesota. Autre déclaration, Gilles, celle du sénateur Ted Cruz, qui a déploré le ton employé par l'administration présidentielle suite à la mort de René Goode et Alex Preti.
Merci pour toutes ces précisions. C'était Grégory Lesca en direct dans ce journal. Il fait toujours très froid aux États-Unis où le bilan des intempéries s'élève maintenant à 30 morts. La vague de froid polaire a privé d'électricité hier soir quelques 600 000 foyers.
Autre grand titre aujourd'hui, la signature d'un accord de libre-échange entre l'Inde et l'Union européenne.
L'exécutif européen Ursula von der Leyen, président de la Commission, et Antonio Costa, la tête du Conseil, ont pour l'occasion fait le déplacement à New Delhi. L'accord signé avec le Premier ministre Narendra Modi intervient au terme de 20 ans de négociations. Il crée une vaste zone de libre-échange de quelques 2 milliards d'habitants, et ce dans un contexte incertain, marqué par la politique commerciale très agressive des États-Unis et par les ambitions de la Chine. Une illustration maintenant, elle concerne le secteur de l'automobile. L'Inde va faire passer ses taxes de 110% aujourd'hui à seulement 10% dans 5 ans. En apparence, une concession, mais elle est surtout symbolique, explique Jean-Joseph Boyau, spécialiste de l'Inde à l'IRIS.
Il fallait bien que l'Inde fasse des concessions. Les voitures, c'était vraiment du côté allemand une condition sine qua non, de façon à permettre aux belles allemandes d'être vendues désormais sur le marché indien, non pas à partir de production locale, mais à partir de production en Allemagne.
Est-ce que c'est une concession qui est importante pour l'Inde ?
Là, on est typiquement dans quelque chose qui est de l'ordre du symbolique. Pourquoi ? Parce que l'Inde produit toutes ses voitures, elle est à 98% autonome. Ce sont des grands industriels, ce sont des producteurs matures qui, eux, ont trouvé une solution qui est de faire des accords de coopération avec des producteurs, et notamment pour ce qui est par exemple de Tata, c'est Fiat qui produit avec Tata pour le marché indien.
Jean-Joseph Boyau avec Nicolas Feldman. Pendant que l'exécutif européen est reçu à New Delhi, Keir Starmer se rend en Chine cette semaine. La première visite d'un premier ministre britannique en 8 ans à Pékin. Elle est saluée par la Chine comme ouvrant un potentiel nouveau chapitre après des années de tensions.
Au Proche-Orient, plus de 2 ans après le massacre du 7 octobre, le corps du dernier otage du Hamas a été rapatrié par Israël.
Oui, c'est la fin d'une longue attente pour les familles et pour toute la société israélienne. Ce rapatriement ouvre en théorie la voie à la prochaine phase de l'accord de cessez-le-feu conclu en octobre pour la bande de Gaza. Mais déjà, Lila Olkinouora, des obstacles apparaissent dans sa mise en œuvre.
Ce qui est prévu dans la phase 2 de l'accord de paix conclu en octobre dernier, c'est entre autres le retrait progressif de l'armée israélienne de Gaza, alors que cette dernière contrôle encore plus de la moitié du territoire. Ensuite, le déploiement d'une force internationale de stabilisation dans la région. Mais pour le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, qui déclarait ce lundi être arrivé au seuil de la prochaine phase du plan américain, la priorité, ce n'est pas la reconstruction, mais le désarmement du Hamas et la démilitarisation de Gaza, d'autres points de l'accord. Et ce désarmement se fera, selon Netanyahou, que ce soit de manière pacifique ou à l'aide de la force. Concernant l'ouverture du point de passage de Rafah, autre point de l'accord de cessez-le-feu avec le Hamas, réclamé de longue date par les Nations Unies, Israël a déjà déclaré qu'il se ferait sous conditions, réservé aux piétons, soumis à un mécanisme d'inspection israélien complet et sans garantie d'accès pour les journalistes.
Lila Olkinouora, face aux menaces iraniennes, les États-Unis renforcent leur présence dans le Golfe où viennent d'arriver le porte-avions Abraham Lincoln et son escorte aéronavale. Pour le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient, le CENTCOM, il s'agit de promouvoir la sécurité et la stabilité régionale. De son côté, l'Iran met en garde contre une intervention américaine.
La plus grande réforme policière depuis un siècle, ça se passe au Royaume-Uni.
Oui, le gouvernement travailliste entend moderniser ses différentes forces de police, actuellement organisées en 43 forces régionales. Combattre le sentiment d'insécurité, c'est une priorité pour l'opposition de droite qui grignote du terrain dans les sondages. Cette réforme doit permettre d'inverser la tendance. Correspondance d'Emeline Vin.
Un FBI à la britannique, la grande annonce de la réforme policière annoncée ce lundi par la ministre de l'Intérieur, Shabana Mahmoud.
Cette réforme va permettre la bonne forme de maintien de l'ordre au bon endroit. Cela commence avec la création d'un nouveau service national de police qui sera chargé de toutes les problématiques criminelles nationales, le contre-terrorisme, le crime organisé, la fraude. Cela va permettre aux forces locales de ne plus se préoccuper des responsabilités nationales, tout en créant un service d'élite.
À l'échelle locale, les forces régionales seront réorganisées à partir de l'été afin de les rendre plus efficaces, plus modernes et plus visibles, surtout alors que la criminalité augmente. Selon la ministre, cela passe par la réduction du fardeau administratif.
Nous allons lancer le site police.ia et investir 115 millions de livres, soit plus de 130 millions d'euros, dans l'intelligence artificielle et l'automatisation pour rendre la police plus efficace, moins de paperasse, pour plus de temps consacré aux facteurs humains que seul un officier de police peut assurer.
Les premiers chiffres du gouvernement travailliste au pouvoir depuis 1 an et demi montrent une baisse du nombre d'officiers de police en grande partie pour des raisons budgétaires. Emeline Vallondre, RFI.
En France, suite et fin aujourd'hui du procès de l'ancien sénateur Joël Guerriau. Il comparaît pour avoir drogué la députée Sandrine Josseau afin d'abuser d'elle. Hier, Joël Guerriau, tout en s'excusant, a plaidé une erreur d'administration sans intention sexuelle. La révélation de cette affaire en 2023 a mis un coup de projecteur sur la soumission chimique 1 an avant le procès des viols de Mazan.
Toujours en France, à 1 an et demi, un peu quelques mois de la présidentielle une nouvelle candidature.
Oui, celle de François Ruffin. Il a officialisé hier soir sur TF1 sa candidature, 2 jours après l'annonce de l'organisation d'une primaire de la gauche et des écologistes. Ce sera le 11 octobre prochain. Aurélien Devernois du service politique, bonjour.
Bonjour.
Autrefois proche des Insoumis, eh bien le député de l'Oise se défend une ligne anti-élite avec au centre de sa stratégie les travailleurs dits essentiels. Expliquez-nous.
Oui, et puis il y a une forme de paradoxe ou de panache selon les points de vue de venir annoncer sa candidature à la présidentielle sur la chaîne des élites économiques quand on défend, comme François Ruffin, l'abolition des privilèges et que les milliardaires paient autant d'impôts que leurs secrétaires. Cette contradiction, le député la revendique. S'il est convaincu que la gauche peut gagner en 2027, il faut qu'elle se fasse aimer au-delà.
une antenne capte une multitude de fréquences, pour écouter la radio, il faut bien sélectionner une fréquence. Ça, c'est le rôle du tuner.
Nous nous excusons de la mauvaise qualité du son, dont la cause est indépendante de nos installations.
C'est pas mal, Jamy, mais j'entends pas terrible, hein. Ça grésille.
Et la FM, c'est fait pour quoi ?
Principe actif à Évreux, 102.4. Dans le sud de l'Eure, 95.9. Principe actif, le mix des cultures.
Ok ! Avis, Pikwani ! Eh, wabwede, wabwede, wabwede ! Eh, chapeau, chitou !
pas notre hip-hop. Ils ne savent pas, ils ne vivent pas notre hip-hop. Ils ne savent pas, ils ne vivent pas notre hip-hop. Straight to the top.
Brasse des millions pour ton crew, pour ta propre personne. Partage ton histoire, ton savoir, équilibre la nôtre. Affûte bien tes lyrics pour qu'aucun des nôtres vôtre. Conseil de vétéran, mais âme d'enfant quand je parle. Mon crayon maquille la feuille, mais maquille pas mon drame. Personne ne m'a expliqué, j'ai nagé dans mes larmes. Je m'en sors peu à peu en restant loin de mon arme. Si je veux la paix dans ma vie et que je veux vraiment voir jour, je ne peux penser qu'à une destinée, une vision, un amour. Universel et sans limite, donc infini et plein spirit, ermite apologique. Mon hip-hop n'est que cosmique. Donc ma prose vit juste, vite crier. Ceux qui tapent l'incruste, vision claire et limpide. Pour qu'aujourd'hui on voit le changement. Le soleil se lève au loin et déjà éclaire nos rangs.
Infinite falling, infinite high. until we've gone too far. Living in a